Au quotidien, avec Hélène Denis.
Les vacances de la construction approchent, 16 juillet 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour mesdames et messieurs.
En forme ce matin?
Pas pire, pas pire.
Oui. Yvan Deslauriers, êtes-vous en forme?
Oh oui.
Super. Oui, est-ce que vous faites un peu de sport, vous, par les temps qui courent?
Sûrement pas assez, en tout cas. Je fais du spinning, malheureusement, une fois par semaine seulement, le lundi matin au Centre Épic. Et je fais du pickleball.
Ah oui.
Aussi à l'intérieur.
Ah, ben quand même, vous êtes assez actif.
Ouais, j'ai déjà été pas mal plus actif. Là. C'est une période où je suis très, très pris par un contrat de travail. Alors, je suis plutôt vissé à mon siège devant un écran d'ordinateur la plupart du temps.
Vous êtes dans l'action, mais autrement.
C'est ça. Mes doigts bougent beaucoup.
Oui. Yvan, aujourd'hui, vous allez nous présenter deux chorales qui sortent vraiment de l'ordinaire.
En fait, j'ai changé un petit peu quelque chose.
Je vous le dis
en honte.
Mais oui, merci.
Je vous dis la première chorale, oui, je vous en parle, c'est une chorale pour des gens qui ont des problèmes pulmonaires. Ça s'appelle la chorale pulmonaire de Laval.
Ouais.
Mais en travaillant sur mon texte tôt ce matin, je me suis aperçu qu'il y avait une étude qui avait été faite à ce sujet-là par l'Université de Sherbrooke. Alors, je vais compléter ma lecture avec ce matériel-là. Donc, la chorale, à propos de l'Alzheimer, je vous en parlerai sûrement une autre fois.
C'est noté. Et est-ce que vous avez changé d'idée à propos des cantines?
À propos des comptines.
Des comptines.
Ah non, des cantines. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, c'est parce que j'ai écrit quelque chose hier à quelqu'un faisant référence à une comptine.
Okay.
Là, j'étais un peu mélangé dans mes affaires.
Oui, puis moi, c'est comme si je l'avais dit un peu, c'était un entre-deux entre comptine et cantine. Alors, je peux comprendre la confusion, la cafusion.
Non, l'été, la cantine, voyons donc. C'est essentiel. Si on fait du sport, c'est pour pouvoir manger des cochonneries avant, pendant ou après.
Ah, ben ça, alors, c'est votre point de vue.
Oui, c'est sûrement mon point de vue. Alors, oui, on va parler de cantines à travers le Québec. Et puis même, je vais suggérer une cantine que je préfère, qui n'est pas dans la liste.
Ah! Bon, alors, on a hâte de tout savoir. Et puis, nous aussi, si on a des suggestions, on va pouvoir les donner, les faire.
Bien oui, je l'espère. En fait, je vais vous solliciter.
Malgré qu'il y a des cantines qui étaient fabuleuses puis qui en ont perdu, alors celle-là, j'ai pas envie d'en parler. Mais la cantine de mon enfance, là, j'y suis retournée, ça fait pas si longtemps, puis j'étais tellement déçue.
Ah, oh, ça goûtait plus la même affaire.
Non, puis ça coûtait beaucoup plus cher. C'était mais plus 25 cents pour un hot dog. Pardon?
Comment elle s'appelle, là, celle qui est la coach au chef, là?
Oui, Colombe Saint-Pierre.
Colombe Saint-Pierre, elle avait une cantine qui s'appelait la cantine maritime, mais est en sabbatique, je pense, cette année.
Oui. Tous ces restaurants sont en suspension.
Elle n'est pas là.
Non. Oui. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et des bonnes à part de ça.
Oui.
OK, bien, merci beaucoup, Yvan. On se retrouve tantôt. Puis, je parlerai aussi avec le réalisateur ici, l'auteur de Regarde-moi. Ça m'a bien touchée. On ira le rejoindre. Je pense qu'il est à Toulouse. Il s'appelle Fabrice Garcia Carpentero et il nous propose Regarde-moi. C'est le titre d'un court-métrage d'animation et aussi d'un album illustré qui porte sur la vision du monde d'un garçonnet autiste. Également au menu, on parlera avec Philippe Frenette-Roy qui viendra en studio nous présenter son documentaire Uzeb en fusion. Imaginez le groupe Uzeb qui a été créé il y a 50 ans cette année parce qu'il a été fondé en 1975 à Drummondville et c'est un groupe qui a connu un succès monstre. Alors on aura l'occasion d'écouter la musique d'Uzeb et de parler de ce documentaire que j'ai regardé avec énormément d'intérêt. On commence avec une nouveauté, voici Ellie Rose.
J'ai le sentiment d'avoir vécu mille fois, comme si je devais suivre toujours la trace de mes pas. Les jours défilent, je ne compte plus.
Emmène-moi, une chanson de Élie Rose.
À la une du Journal de Montréal, envoyez-nous vos témoignages et photos scoop@tva.ca. Ils font tout pour éviter Montréal, les témoignages d'automobilistes pour qui la congestion routière de la métropole est devenue invivable, comme Stéphane Daou sur la photo, s'accumule. L'Argentine bat l'Angleterre, une dernière finale pour Messi. La finale de la Coupe du monde qui va se passer entre l'Espagne et l'Argentine et le match sera diffusé, aura lieu dimanche. Elle vivait dans le luxe au Québec. Le fisc pourchasse l'ex d'un chef de cartel. On en parle en page 3 du Journal de Montréal, sous la plume de Nora T. Lamontagne, le fisc est aux trousses de l'ex-conjointe d'un puissant dirigeant de cartel mexicain qui a vécu dans le luxe à Montréal pendant plusieurs années, tout en ne déclarant presque aucun revenu. Le gouvernement canadien réclame aujourd'hui 1,1 million de dollars en impôts impayés à Jennifer Camacho, l'ancienne partenaire de vie d'Abigail González Valencia, ce qu'elle conteste. Mieux connue sous le nom de El Quini, González Valencia est affiliée au violent cartel Jalisco Nouvelle Génération, selon les autorités américaines. Celle-ci croit également que sa conjointe de l'époque a joué un rôle dans l'organisation et l'ont ajoutée à la liste des sanctions américaines visant les narcotrafiquants étrangers en 2015. Qui sont les Quini? Une organisation cofondée par Abigail González Valencia et certains de ses frères, branche financière du cartel de Jalisco Nueva Generation, l'un des plus violents et plus riches du Mexique, est responsable de blanchir l'argent du cartel et de rapatrier les fonds au Mexique. Également, en page 3, on parle... Plutôt en page 2, on parle de cette maladie transmise par les tiques qui bat des records. L'anaplasmose qui a tué une personne au Québec en 2024 progresse. Rien de très, très rassurant. Les trois quarts des cas étaient concentrés en Estrie et les autres étaient presque tous en Montérégie, résume la docteure Geneviève Baron, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la Direction de santé publique de l'Estrie. Alors, quand on parle de records, c'est le chiffre 71 qu'on publie. Les trois quarts des cas, donc 51, étaient concentrés dans les cantons de l'Est. L'an dernier, le journal a révélé le premier décès au Québec causé par l'anaplasmose survenue en 2024, transmise par la tique à pattes noires, aussi porteuse de la bactérie causant la maladie de Lyme. L'anaplasmose avait été observée pour la première fois au Québec en 2019, maladie à déclaration obligatoire depuis ce temps. Elle est passée de quelques cas à une quarantaine en 2023 jusqu'au sommet de 2025. En 2026, on en a signalé 24 jusqu'à maintenant. La docteure Baron a fait partie de la première équipe québécoise à avoir étudié l'apparition soudaine de cette maladie, alors qu'une éclosion avait été rapportée chez 37 patients en 2021. C'est une maladie qui se traite bien quand elle est prise tôt, mais elle peut être grave chez les personnes vulnérables, explique-t-elle. Alors, les principaux symptômes de cette maladie, anaplasmose, fièvre élevée soudaine, frissons, fatigue intense, maux de tête, douleurs musculaires, nausées, vomissements, diarrhée. Et puis, à la une du devoir, on parle aussi de cette maladie. Les tiques ne transmettent pas que la maladie de Lyme. Elles peuvent aussi transmettre l'anaplasmose, une infection bactérienne qui peut dégénérer si elle n'est pas traitée rapidement. Nouvelle escalade entre l'Iran et les États-Unis, il en est question à la une du Devoir. Le spa québécois sort du silence. C'est un texte de Annabelle Caillou. En fait, c'est le dernier texte d'une série de trois sur l'industrie du spa qui a plus que jamais le vent dans les voiles, porté par une quête de mieux-être qui s'est accélérée depuis la pandémie. Et on voit aussi à la une du Devoir le comédien très populaire Pierre-Luc Fong, qui fait partie de la distribution de 125 rue des Malaises, comédie sur une mort annoncée. Et selon la critique du Devoir, le film de Louis Bélanger est touchant et divertissant avec toute une distribution 5 étoiles, Rémi Gérard, Guylaine Tremblay, Geneviève Schmidt, Claude Legault et Pierre-Luc Fong, comme je le disais plus tôt. Alors, c'est un film qui prend l'affiche très bientôt, qui sera certainement un grand succès cet été. Et puis, à la une de la presse plus, finalement, Il est question de crise des surdoses, les régions durement frappées. Chez les moins de 50 ans, le nombre de décès a augmenté de façon alarmante depuis le début de l'année. Au Québec, la vague de surdoses qui sévit n'y est pas étrangère. En région, les morts s'accumulent et les organismes peinent à endiguer le fléau. Un autre fléau, les incendies de forêt, cette fois en Ontario, des scènes apocalyptiques. Les gens vivent dans la fumée. Le nord-ouest de l'Ontario brûle depuis les derniers jours. Des dizaines et des dizaines d'incendies ont détruit au moins une communauté, forcé de nombreuses évacuations et plongé la province dans un épais nuage de fumée. Autre titre à la une de la Presse Plus, on parle de la Coupe du Monde, on voit Lionel Messi, l'Argentine en finale, la légende continue de s'écrire, la presse est à Atlanta et on parle aussi du film 125 rue des Malaises, improvisation mixte sur l'aide médicale à mourir. La presse a rencontré le cinéaste Louis Bélanger, le réalisateur du film, et c'est Manon Dumais qui a eu la chance de parler avec lui.
Noir et... Voilà,
oui.
Tout.
Aimé d'amour!
Aimé d'amour!
Et une choriste en or. Vous avez reconnu, j'imagine, la voix fantastique de Nanette Workman. Yvan, parlant de voix, des voix qui portent, vous nous présentez la chorale pulmonaire de Laval.
Oui, et j'aime toujours présenter des textes êtes sur le chant choral quand vous êtes en animation, parce que vous-même, vous avez chanté.
Tout à fait, dans une chorale.
Je ne sais pas si vous chantez encore, d'ailleurs.
Mais pas dans la chorale Allegro, dans laquelle j'ai chanté pendant 5 ans, mais je chante toujours.
Bravo!
Je chante dans mon char, entre autres.
Votre char est chanceux.
Ah, c'est gentil.
Alors, c'est un texte qui a été publié dans la presse du 21 juin par Perlina Rossi Brown. Peut-être la presse embauche des stagiaires à tous les étés. Enfin,
sûrement, parce que ce n'est pas un nom qu'on connaît.
Oui, c'est ça. Et on va parler du chant choral, mais en parallèle avec la maladie pulmonaire. Donc, la chorale pulmonaire de Laval, des voix qui portent. Ça commence en disant « Elles sont vite à bout de souffle, mais ça ne les empêche pas de chanter. » Chacune des voix est, entre guillemets, affaiblie, mais ensemble, elles résonnent fort. Pour les membres de la chorale pulmonaire de Laval, tous atteints d'essoufflement chronique, chanter n'est pas qu'un loisir. Ça leur permet surtout de travailler leur capacité respiratoire. Il y a une chanson de Serge Fiori, composée par Serge Fiori et Michel Normandeau. À un moment donné, il y a des paroles qui disent « Pour un instant, pour un instant, j'ai respiré très fort, ça m'a permis de visiter mon corps. » Alors, c'est des paroles qui prennent tout leur sens lorsqu'elles sont chantées par la douzaine de membres de la chorale pulmonaire lors de leur concert de fin de saison.
De fin de session.
Fin de session.
On dit cantine, on dit session, saison.
Oui, on est un peu approximatif.
Mais on se recadre.
C'est ça. À deux, on va y arriver. Après 2 mois et demi à travailler leur capacité respiratoire au moyen du chant, à raison d'une fois par semaine, les choristes ont pu présenter le fruit de leur travail à la mi-juin au Centre du Sablon de Laval. Et le journal La Presse a assisté à leur concert. Maladie pulmonaire obstructive chronique, le MPOC, fibrose pulmonaire, asthme, bronchiectasie. Les participants souffrent d'affections diverses. Peu importe la maladie, il y a bien des deuils qu'on doit faire, confirme la choriste Francine Ranger. Et là-dessus, on se comprend les uns les autres. En fait, elle pourrait dire presque les unes les autres. Il y a 2 hommes qui font partie de cette chorale-là, et lors de cet article-là, il était absent.
Oui, ça, c'est caractéristique des chorales en général. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a un phénomène naturel aussi là-dedans, hein? C'est que les femmes vivent plus longtemps.
Oui, peut-être, mais il n'y a pas juste ça.
Il y a beaucoup de chorales qui ont des personnes âgées. Alors, voilà. Bon. Ça, c'est le statisticien qui vient.
Petite explication qui pourrait être débattue.
Alors, atteinte de bronchiectasie, Francine explique que, comme certains de ses camarades, elle n'est plus en mesure de garder le rythme dans certaines activités sociales exigeant un effort physique. Elle dit « On n'arrive plus à marcher au même pas que les autres. C'est comme respirer avec une paille dans la bouche. » Pour ces personnes âgées, qui forment la grande majorité du groupe, la chorale permet aussi de briser l'isolement, qui est le fait de promouvoir toutes les chorales d'ailleurs. Une façon pour elles de rencontrer des gens qui vivent la même chose, qui sont essoufflés eux aussi, explique la chef de chœur de la chorale pulmonaire, Eva Nadon, qui est également neuropsychologue. Micheline Turcotte, elle, est en deuil de sa vie de sportive en raison de sa fibrose pulmonaire. Elle dit « Il y a encore 2 ans, je jouais régulièrement au golf. J'ai encore tout mon équipement. » Malgré tout, Micheline choisit de se tourner vers ce qui lui est encore accessible, comme la chanson. C'est pourquoi, en ce vendredi après-midi, elle a bravé l'humidité et la chaleur, de vrais ennemis pour ses poumons, pour déployer sa voix dans le sous-sol frais du Centre du Sablon. C'est en tombant sur un reportage de Radio-Canada sur la chorale Respire-Cœur de Sherbrooke que la kinésiologue Chantal Denis, est-ce que c'est dans votre famille, Hélène?
C'est ma cousine. Non, c'est pas vrai. C'est, si on est parents, je sais pas.
OK. La kinésiologue Chantal Denis a eu l'idée de la reproduire à Laval. Sa chorale pulmonaire est donc la seconde du genre au Québec. Madame Denis déplore qu'il existe peu de structures de maintien post-programme de réadaptation pulmonaire, notamment à l'hôpital juif de réadaptation où elle travaille. Ses patients sont peu encouragés à travailler pour conserver les acquis qu'ils ont faits. Une fois les 10 à 12 semaines de réadaptation pulmonaire terminées, leur motivation diminue pour continuer à pratiquer les exercices respiratoires ou physiques enseignés. Souvent, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là reviennent dans la boucle de la réadaptation. On a des listes d'attente énormes et on n'arrive pas à les reprendre, puis à les aider à faire de l'auto-prise en charge de leurs conditions. La liste d'attente externe en réadaptation pulmonaire compte actuellement une centaine de patients de Santé Québec Laval, anciennement le 6 de Laval. Et le délai d'attente oscille entre 9 et 12 mois. Eva Nadon et Chantal Denis espèrent bâtir un partenariat formel avec le système de santé. Elles disent « Il y a déjà des pneumologues de Santé Québec Laval qui ont orienté des patients spécifiquement vers la chorale. » Revenons au centre du Sablon. L'excitation est palpable chez les choristes juste avant l'arrivée de leur public. Aujourd'hui, le chœur est exclusivement féminin. 3 membres manquent à l'appel, dont les 2 seuls hommes du groupe. Chantal Denis en profite pour réchauffer les pratiquantes avec des étirements et des exercices respiratoires qui ouvrent la cage thoracique et stimulent le diaphragme. « Vous êtes belle », leur lance-t-elle, tout sourire. Suivent des exercices vocaux guidés par leur chef. Les notes poussées par les chanteuses, d'abord timides, se déploient graduellement. Certaines semblent même étonnées par leurs propres prestations. Une 20aine de spectateurs, amis, familles, employés du Centre du Sablon et même représentants de partis politiques locaux s'installent dans le local. Ça parle, ça rit, jusqu'à ce qu'une poignée de choristes impose le silence aux invités. C'est Chantal Denis qui dit en riant, « On a un groupe au caractère fort et c'est ça qu'on aime d'elle. » La preuve, ça n'a pas toujours été facile de s'entendre sur le choix des chansons. Le répertoire de morceaux est donc à l'image de l'ambition des choristes pulmonaires. Elles enchaînent des chansons au style et au rythme varié devant leur public enthousiaste. Ça va d'Harmonium à Michel Fugain, en passant par les Beatles. Francine Ranger trouve cette variété stimulante sur un plan cognitif. La mémoire, c'est important pour les chansons. C'est un défi pour nous. À l'issue du concert, Maryse Salvas, atteinte d'emphysème et d'asthme, se sent bien et dégagée, physiquement comme mentalement, comme toujours à la fin de ses rencontres. La pétillante sexagénaire dit avoir hâte de revenir à l'automne pour chanter avec sa nouvelle gang. Et elle n'est pas la seule. En partant, tous les choristes, sans exception, se sont donné rendez-vous. À la session prochaine. Alors, selon une étude de la musico-gérontologue Louise Drouin de l'Université de Sherbrooke, bien que le chant ait peu d'incidence sur la distance effectuée lors des tests de marche des programmes de réadaptation pulmonaire, celui-ci agit directement sur la perception de la maladie. Cette étude, qui a été publiée en 2021, compare un groupe de chant choral à un groupe de réadaptation pulmonaire classique sur 12 semaines. Nicole Marquis, qui est physiothérapeute, ayant créé la chorale Respire Cœur à Sherbrooke, qui est au centre de ce projet de recherche, explique. On n'a pas vu d'amélioration au test de marche 6 minutes, mais au niveau de la qualité de vie et de la perception d'essoufflement, c'était comparable à la réadaptation pulmonaire.
Chantons!
Oui, chantons. Et si vous voulez plus d'informations il y a un site qui s'appelle Chorale pulmonaire, qui a été fait par l'Université de Sherbrooke, où on explique pas mal tout ce qui sous-tend ces initiatives de chorale pour les gens qui ont des difficultés pulmonaires.
Un grand merci, Yvan.
Bienvenue.
On reprend notre souffle et on parle de cantine après la chanson.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
I was running out of time, inspiration hard to find. Across the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love I'm just a beginner. But if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. I knew a girl with a diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette, show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down-tempo, low-key and rock-steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love I'm just a beginner. What if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. Oh. Tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. No whiskey and ginger, I'm just a beginner. What if I stayed in the rain? Just one more night, just one more night.
Leon Bridges, Loredo.
Une chanson qui donne envie de prendre la clé des champs. Alors, avec Yvan, on s'en va sur espace.ca qui nous propose des cantines, 18 cantines à découvrir cet été au Québec. Est-ce qu'on va avoir le temps de passer au travers?
Non, probablement pas, mais on a encore un futur tellement brillant devant nous si on veut toutes les faire dans les prochaines années.
Oui, on l'espère qu'on a un futur brillant.
On l'espère. L'article commence en disant « Attention ». Le contenu de cet article pourrait vous donner envie de partir en quête d'une guédille au homard, d'une frite maison ou d'un double cheeseburger, car avec l'été vient le retour des cantines sur la route des vacances. Alors, Hélène et Mathieu, est-ce que vous avez un endroit de prédilection quand la fringale vous prend pour ce genre de bouffe?
Dans Montréal, je dirais, je pense que ça s'appelle la patate rouge. Ça se peut sur Crémazie. Très okay. Bon hot dog chou moutarde, excellente poutine. Sinon, j'ai découvert la Florida, qui est un casse-croûte vraiment oui. À essayer. C'est à Batiscan. Et c'est une cantine au décor super vintage. Alors, on s'amuse à découvrir toutes sortes d'éléments kitsch et la nourriture, pour ce qu'elle est, là, elle est vraiment fraîche et savoureuse. Puis sinon, il y a la Casa Whippy à North Attlee pour, moi, je suis pas capable de dire la Guédie au mort. La Guédie, ça me donne pas envie d'en manger. Un bon lobster roll.
Ah, bravo.
Ouais,
bravo.
Ouais.
Et je vois que vous avez quand même des goûts assez étendus à travers le Québec.
Oui, assez.
Et Mathieu, est-ce qu'il y a lui, est-ce que vous avez un endroit de prédilection?
Non, pas du tout. J'avais, quand j'étais jeune, on avait chez Bélanger, qui avait les meilleures patates en ville.
Chez Bélanger, à Montréal, ça?
Non, non, c'était à Courville,
okay.
À Beauport. Mais là, je ne vais jamais dans les casse-croûtes.
Non, Mathieu mange des poissons fraîchement pêchés.
Exactement.
Par sa blonde. Alors, ben vous, votre cantine chouchou, est-ce que vous en avez une,
oui,
Yvan?
Et je vais y arriver. Pas dans la liste, mais presque. Fait que je vais vous en parler dans quelques instants.
D'accord.
Je commence avec la roulotte Beauparlant. Ça, c'est à Shawinigan, en Mauricie. Alors, sachez que Montréal et plusieurs villes du Québec ont interdit les roulottes à patates autour de 1947. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus tard que ça, mais 1947. Mais Shawinigan, elle, les a conservées. Ainsi, depuis plus de 80 ans, pas une année n'a passé sans que les gens du coin puissent passer une commande à la fenêtre d'une des deux roulottes historiques de la ville qui était autrefois tirée par un cheval et qui offrait des sacs de frites contre quelques sous. Dans la culture locale de Shawi, on doit cependant choisir. Soit on va à la roulotte à patates, soit on va à la roulotte à patates drettes. Deux options similaires, mais dont le goût diffère. Idéalement, mieux vaut essayer les deux pour déterminer si on est team drette ou team frisé.
Mais c'est quoi ça, drette ou pas drette?
C'est que d'après ce que je comprends de cette petite description, c'est des frites droites.
Ah oui, d'accord.
Drettes, et les frites frisées.
Je pensais que c'était la roulotte qui était croche.
Non, la roulotte est belle.
Oui.
Elle est vraiment belle.
Elle est orangée.
Je comprends pas pourquoi on a arrêté ça.
Non, enfin, c'est charmant. Alors, on poursuit avec, cette fois, c'est pas une roulotte.
Oui, on s'en va à Sept-Îles, sur la côte nord. Le casse-croûte du pêcheur. Oups, là, j'ai pesé dessus au café. Sur la côte nord, c'est impossible de manquer cet immense casier à homard qui sert de salle à manger. Au casse-croûte du pêcheur, on déguste poutine, frites et burgers, mais aussi des spécialités de la mer, comme des calmars frits, des acras, ou des guédilles, qu'on voudrait appeler autrement, semble-t-il. Puis c'est comme dans un phare pour commander, là, le petit guichet est comme dans un phare, dans le bas d'un phare.
Ah oui, wow! J'essaie de voir l'image, mais c'est impossible pour l'instant. Là.
Ah bon? OK. Mais croyez-moi, sur parole.
On va essayer.
Ensuite, on va à Saint-Sulpice, et c'est là que j'ai une faiblesse. J'ai une de mes faiblesses.
Ah oui? Dans la Naudière?
Oui, oui, oui. Mais on va commencer par décrire l'Iris du fleuve, qui est juste, qui est pas très loin à côté de ma favorite. Donc, à 30 minutes de Montréal, c'est une petite cabane mauve qui fait de l'œil à ceux qui empruntent le chemin du roi. C'est l'Iris du fleuve à Saint-Sulpice. C'est ouvert depuis 1962. La cantine propose les classiques, mais aussi des fish and chips, des club sandwich, des guédilles.
Oui, c'est de plus en plus populaire, hein, les guédilles. Non, on s'en sortira pas, alors allons-y, assumons.
Qu'on déguste sur les tables à pique-nique mauves collées au fleuve. Alors, je peux vous le dire, je suis allé, c'est vraiment très bon à ce moment-là. Le coup d'œil en vaut la peine. C'est juste que on est un petit peu près de la route. Alors, on a un beau coup d'œil d'un côté, mais on a beaucoup de bruit des voitures qui passent
oui,
en arrière.
Okay. L'Iris du fleuve.
Ce que je vous suggère, et qui n'est pas dans la liste, vous allez juste un peu plus loin, vers le nord, toujours à Saint-Sulpice, là, près dans le village de Saint-Sulpice, parce qu'on est tout près de l'église, et ça s'appelle le Casseau du Quai. Et le Casseau du Quai, ce qu'il y a de particulier, c'est que on commande d'un côté, il y a comme une petite maison, on commande et on va à l'arrière de la maison. Et à l'arrière de la maison, c'est un terrain avec des tables de pique-nique. Et la vue sur le fleuve est vraiment impressionnante. Et comme on est à l'arrière de la maison, on n'entend pas les voitures qui circulent.
Ah, oh, on mange notre guédille en paix.
Oui.
Avec moi, une vue imprenable.
Oui, c'est ça. Alors, moi, comme je ne mange pas de viande rouge à cause de mon cœur, je prends un club sandwich et je suis très heureux.
Le Canso du Quai, c'est où exactement?
À Saint-Sulpice.
OK, à Saint-Sulpice. Et c'est où Saint-Sulpice? Oui. C'est dans la Naudière, vous allez me dire, là, oui. Mais on prend quoi?
L'autoroute 40, et je pense que c'est la sortie 110. Là, j'y vais un peu de mémoire, là, mais c'est à peu près ça.
Bon.
Il y a une sortie Saint-Sulpice.
On va l'essayer, on va l'essayer.
Oui, tout à fait.
Il reste peut-être une ou deux minutes, là.
Une ou deux minutes. OK, allons à... Tiens, à la Malbaie, tiens, chez Chantal, dans Charlevoix. Vous ne manquerez pas de repérer cette petite cabane rose située près du fleuve et de la voie ferrée dans le charmant secteur de Pointe-au-Pic. Outre les grands classiques de casse-croûte comme la poutine, les hot-dogs, les burgers et la crème molle, on y trouve également leurs célèbres guédilles et poutines au homard à déguster avant ou après une balade sur le quai. Et puis, moi, j'ai vécu dans l'Outaouais. Alors, il y a la pataterie huloise qui, semble-t-il, est à Gatineau, mais maintenant, c'est parce que Hall, Aylmer et Gatineau, ça s'appelle tout Gatineau. Alors, je suis un peu mélangé, mais c'est du côté de Hall. C'est installé depuis 1982. J'étais là au moment où ça commençait, mais je suis pas allé, vraiment. La pataterie huloise est légendaire dans la région de Gatineau. Elle sert les gourmands venant de toute la province, 7 jours sur 7, du matin au soir, poutine burger, sandwich, BLT, hot dog et bien sûr frites maison bien dorées et délicieuses sont toutes préparées avec des produits les plus locaux, avec sa façade jaune et bleue. Elle est impossible à manquer. Et je finis. Vous pourrez aller voir l'article, il y en a à Sainte-Flavie. Sainte-Flavie, il ne faut pas manquer ça, je suis allé, c'est vraiment extraordinaire.
Ah oui, pour le club sandwich au homard ou aux crevettes.
Oui, oui.
Là.
Oh, oui, puis c'est très généreux tout ça. Je suis allé à Ottawa en fin de semaine dernière, aller écouter les King Singers. Et au retour, au lieu de prendre la 417 qui est l'autoroute, on prend la 17. Ben, ça ne s'appelle plus la 17, ça s'appelle la 174. Puis ça longe la rivière des Outaouais et vous arrivez dans un village franco-ontarien qui s'appelle le village d'Alfred. Et la denrée principale du village d'Alfred, c'est la patate. Alors, si vous voulez manger une frite à Alfred, la vue paye pas de mine, là, ça a l'air de...
Mais la patate paye de mine.
Mais la patate, ça vaut la peine d'aller.
Patate mallette aussi à Beauharnois. Espace.ca, merci pour toutes ces suggestions et bonne patate et bonne guédille, Yvan. À la prochaine.
Merci beaucoup. Bye.
On s'en va en France, n'est-ce pas, Fabrice Garcia Carpintero?
Oui, bonjour.
Vous êtes où exactement?
Je suis à La Salvetat-sur-Agout, c'est dans la Montagne Noire, c'est dans le sud-est.
D'accord. Est-ce qu'il fait beau là où vous êtes?
Actuellement, oui, il fait plutôt chaud en France en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant.
Oui, on est au courant. On ne vit pas sous une roche. Alors, on sait que vous crevez de chaleur, mais ça n'arrête pas, hein, cette chaleur?
Ça fait la deuxième ou troisième vague de canicule en France.
Oui, oui.
Donc, effectivement, ça, c'est très précoce, c'est très inhabituel. On vit avec. Dans la montagne, c'est très arboré, donc c'est supportable.
Oui.
Mais je plains ceux qui sont en pleine ville actuellement, sous les toits, à Paris, par exemple, où voilà, ça frise les 40 degrés sous les toits.
Non, là, ça devient invivable et suffocant. Oh. Alors, Fabrice Garcia Carpintero, est-ce que je prononce bien votre nom de famille?
Parfaitement.
Oui, bon, parfaitement. Super, je suis bien contente. Oui. Vous êtes, entre autres choses, auteur, réalisateur de Regarde-moi. Et Regarde-moi, c'est un court-métrage d'animation de fiction et c'est aussi un livre adapté de ce film. Et c'est un album illustré qui est disponible en librairie en version numérique. Mais avant de parler de Regarde-moi, j'aimerais que vous vous présentiez, là. Vous vous décrivez comme neuroatypique et père d'un enfant autiste. Alors, j'imagine que ces conditions, le fait d'être neuroatypique et père d'un enfant autiste, ça façonne votre façon de voir le monde, votre regard de créateur.
Oui, c'est évident. C'est évident. On a un regard qui est différent de ceux des autres. Moi, j'ai des TSA. Et je suis ce qu'on appelle un multipotentiel, c'est-à-dire que j'ai tendance à me disperser, à être compétent dans plein de domaines différents que je survole, et parfois j'arrive à faire de belles choses tout de même. Mais voilà, personnellement, j'ai un regard artistique qui est assez original. Et ça, le public le note assez facilement.
Oui.
Voilà. Moi, l'idée, c'était pour ma relation avec mon fils, par exemple, c'était d'essayer de se mettre à sa place pour voir comment lui, il appréhende le monde qui l'entoure et de faire de cette sensation une œuvre d'art.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, le film dont on parle et le livre dont on parle, il n'a pas pour objet principal de parler de l'autisme. Il a pour objet principal de parler du regard d'un enfant.
Ouais.
Atypique sur le monde qui l'entoure et comment il va surpasser les difficultés qu'il rencontre grâce à son atypie, justement.
Votre fils s'appelle comment, Fabrice?
Mon fils s'appelle Esteban.
Esteban.
Dans le film, Esteban Garcia Carpintero, et dans le film, c'est Célian. Et
oui.
Dans le film, Célian est.
Et il a 5 ou 6 ans dans le film, ou c'est votre regard sur votre fils Esteban lorsqu'il avait 5 ou 6 ans? Qu'on peut voir à travers Regarde-moi.
Alors, en fait, j'ai beaucoup discuté avec lui. J'ai enregistré des discussions. Je les ai même filmées pour certaines. Surtout des bulles autour de ses intérêts spécifiques. Et je me suis servi de ces entretiens-là pour rédiger le scénario et tous les dialogues.
Mmh.
Et du coup, on retrouve vraiment l'âme de mon fiston dans le film. Mais c'est un film de fiction. C'est-à-dire que je me suis juste inspiré de ses traits de caractère pour pouvoir avoir plus de réalisme.
Oui, oui.
En fait, on est quand même sur une fiction. Le père dans le film, c'est pas moi. Moi, je comprends, je m'intéresse. Je comprends, je peux pas dire que je comprenne totalement mon fils encore. Mais je m'intéresse à sa façon de vivre. Donc, je suis entré dans son monde. Voilà, par une petite porte, par une petite trappe qui est la trappe de l'image et du son.
Quand il était plus petit, là, quand il était plus jeune.
Oui. Là, ça va un peu mieux.
Il a quel âge aujourd'hui?
Là, il a 13 ans.
Ah, il a 13 ans.
Il a été pris en charge assez jeune. Hein. Ouais, il a été diagnostiqué à 4 ans. En fait, dès la première entrée scolaire, en France, c'est à 3 ans.
Oui.
On a été convoqué au bout d'une semaine par la maîtresse d'école pour nous dire que notre enfant n'avait pas un comportement scolaire. Avec des soupçons déjà à ce moment-là d'autisme. Donc, on a très vite fait les démarches auprès d'un centre expert qui était à côté de chez nous. On a eu la chance d'avoir ce centre expert à côté de chez nous qui a très vite réagi et qui a posé un diagnostic au bout de 9 mois. Et après, il a été pris en charge par ce centre pendant 3 ans, de ses 4 ans à ses 6-7 ans. Pendant 3 ans. Et après, il a été laissé un peu enfin, à l'abandon, enfin, parce qu'il n'y avait plus de prise en charge possible par ce centre, puisque les prises en charge s'arrêtaient à 6 ans. Donc on a essayé de pousser au maximum, et à partir de ces 6 ans, on n'avait plus de prise en charge. On a été en liste d'attente pendant longtemps pour une autre structure qui s'appelle CESAD, donc une structure adaptée pour les personnes en situation de handicap, avec des éducateurs spécialisés qui se focalisent sur les problématiques des enfants, pour essayer de les régler, pour essayer de trouver des solutions, des astuces pour les compenser un peu. Et on est resté en liste d'attente jusqu'à ses 9 ans, et à 9 ans, il a été pris en charge correctement, et il a fait beaucoup de progrès entre ses 9 et ses 13 ans.
Oui, alors là, il y a eu quand même des longs délais où il a été laissé à lui-même. Heureusement qu'il avait des parents, oui, pour l'encadrer. Et le film est arrivé, vous avez eu l'idée du film et du livre en même temps. Comment ça s'est passé?
Alors, le film est arrivé en premier lieu parce que je partageais ce goût d'image avec mon fils. C'était pendant le premier confinement en France en 2020. Lui s'intéressait beaucoup à la photo à l'époque, à l'image de manière générale, mais beaucoup à la photo parce qu'il avait un boîtier, je lui ai prêté un boîtier Canon de photographe. Et du coup, pendant le confinement, je lui montrais comment utiliser ce genre de boîtier-là et les réglages basiques. Et du coup, on a trouvé des petits sujets de reportage dans le jardin pendant le confinement. Et ces sujets-là, c'était des insectes. Et donc, on a commencé à faire des films autour des insectes. Et ensuite, il a voulu passer devant la caméra. Donc, je lui ai dit, bon, on peut faire des sortes de petites capsules. Tu me parles de ce que tu aimes dans la vie. Voilà, tu te laisses aller. Et je verrai au montage. Moi, j'essaierai de faire des choses. Et donc, ça a commencé comme ça, cette relation. Ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de créer un véritable film de fiction avec une intrigue.
Ouais.
À la base, je voulais faire tourner mon fils, mais c'est très, très, enfin, ça a été très compliqué.
Vous avez choisi l'animation là, plutôt que la prise de vue réelle.
Oui, oui, oui. En fait, ce qui se passait, c'est que la prise de vue réelle ne reflétait pas bien cet état de transition entre l'imaginaire et la réalité, en fait. C'est juste le fait de passer dans l'imaginaire qui est plutôt rassurant pour faire face à une réalité qui est plutôt inquiétante. Donc ce passage-là entre réalité et imaginaire, il était faisable seulement avec de l'animation. Alors, à la base, je voulais faire une première prise en prise de vue réelle et faire de la rotoscopie. Ce qu'on appelle la rotoscopie, c'est comme qui veut la peau de Roger Rabbit, par exemple, ou Mary Poppins. C'est-à-dire, oui, tourner une première fois en prise de vue réelle et après dessiner par-dessus la prise de vue réelle pour montrer que l'imaginaire arrivait comme, mm-hmm, ça.
Est-ce que ça a été long comme travail? Ça...
Même ça aurait été très très long et, oui, très très coûteux. En fait, déjà, le film d'animation tel qu'il est là, il a pris rien qu'à la fabrication, c'est-à-dire du moment où on a eu les budgets, les gens qui voulaient travailler dessus, etc. Ça nous a pris 2 ans.
Bon, alors, il faut croire en ce projet. Hein. Et ça paraît, il y a, oui, du beau travail. Le court-métrage connaît un beau parcours en festival avec une trentaine de sélections, plusieurs récompenses. J'imagine que vous êtes heureux, mmh, de cet accueil-là.
Oui, 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 je suis heureux à chaque fois qu'on s'intéresse à ce projet-là.
Et à qui s'adresse, Regarde-moi, aux enfants, aux parents concernés par l'autisme ou à tout le monde?
C'est tout public. En fait, le CNC, le Centre national du cinéma français, a décerné un visa tout public. Donc, en fait, c'est accessible à tous les âges. Et après, il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, j'aime bien ça dans l'art. On est un niveau de lecture accessible aux plus jeunes et qui est des choses compréhensibles seulement pour les plus âgés, enfin, pour les adultes. Donc, du coup, c'est tout public. Après, pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué de tout cerner et de tout comprendre. Notamment jusqu'à 5-6 ans, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que derrière, j'ai sorti l'album.
Oui.
Parce que l'album, lui, même si j'ai mâché le travail du spectateur dans le livre, en donnant plein d'indices sur ce qui se passe, parce que dans le film, il y a une grosse ellipse, notamment, qui est tout le sujet de l'intrigue, qui permet de laisser le suspense jusqu'à la dernière image, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est pas tout à fait compris par les plus jeunes, donc j'ai fait une version papier, justement, pour expliquer, qui est un peu plus explicative, pour que les jeunes puissent se replonger un peu plus longuement dans l'histoire et puis réussir à choper des petits détails
ouais.
qu'ils n'auraient pas vus
Mais même pour les
pendant
plus vieux, je trouve que ça ajoute des clés de compréhension. Et en tant que père, oui. Fabrice Garcia Carpintero, qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs, les spectateurs retiennent après avoir découvert Regarde-moi?
Ben, après, il y a cette histoire un peu cliché qui dit que c'est bien de faire d'une différence une force. Mais je trouve que c'est un peu galvaudé maintenant, ça.
Mais c'est ça pareil.
Du coup... Pardon?
Non, mais c'est quand même une belle façon de voir les choses.
Même oui, si c'est cliché. Vrai, mais à force d'entendre ça, j'ai tendance à
ça devient
croire que
banal.
C'est un peu...
Ouais.
Mais du coup, ce qu'il y a, c'est juste avoir un regard différent sur le monde. Savoir que chacun peut avoir son propre regard sur le monde et s'en sortir, surtout. Se dire que, en fait, on s'adapte, l'être humain s'adapte,
ouais.
Quel que soit le profil sensoriel, quel que soit le profil mental, les troubles psy, etc. On peut toujours s'en sortir, et ça, c'est un message d'espoir que je veux transmettre par le film. Et après, en seconde couche, plus en profondeur, ça va être plutôt un message de sensibilisation, parce que personnellement, moi, mon fils, je ne m'inquiétais pas de ses troubles, puisque personnellement, j'en ai aussi. Je suppose que d'autres familles considèrent que voilà, les troubles que leurs enfants ont ne sont pas forcément très, très handicapants, mais le fait d'avoir une prise en charge, c'est important, et ça les fait évoluer dans le bon sens, et très rapidement. C'est ce que j'ai pu constater.
Alors...
Et du coup, ce film-là peut permettre à certaines familles de se dire, tiens, mon fils a ce genre de comportement-là, le flapping, par exemple. Mon fils a des intérêts spécifiques, mon fils a des rituels. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Oui.
Voilà.
Bien, un beau message d'espoir. Fabrice Garcia Carpintero, ça a été un plaisir de parler avec vous. On peut dire à nos auditeurs et auditrices que l'album Regarde-moi est disponible en librairie en version numérique, que je le répète parce que je l'ai dit en introduction. Et pour le film, on pourra le voir en quelques secondes, là, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Bientôt?
on le verra d'ici quelques mois. Il sera sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est à mon nom, Fabrice Garcia Carpintero.
Parfait.
Abonnez-vous et vous serez tenu informé de toute manière.
D'accord.
Il sortira dans quelques mois.
Merci beaucoup. Vous saluerez Esteban. Au plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. Thank you.
Chanson et c'est grâce au film Uzeb en fusion qu'on a écouté I Believe It, parce que c'est rare que ça joue du Uzeb, mais il faudrait en faire jouer une fois de temps en temps parce que c'est bon, il y a de très bonnes pièces et pour en parler, ben, j'accueille Philippe Frenette-Roy. Bonjour Philippe Frenette-Roy.
Bonjour, bonjour.
Documentariste, c'est lui qui signe le film Uzeb en fusion et qui connaît Uzeb comme le fond de sa poche parce que je lui ai posé la question pendant que la pièce jouait, c'est quoi le titre? Vous l'avez eu tout de suite, alors allez-y.
I Believe It.
Et tiré de quel album?
Noisy Nights.
Quelle année?
88. Je pense que ça a été composé en 87.
Bon, vous avez tout bon. Vous êtes impressionnant. Il faut dire que vous avez travaillé longtemps sur ce documentaire-là, pendant 7 ans.
Oui.
Et on va écouter la bande-annonce, puis on va poursuivre. Je vais commencer avec l'entrevue officiellement.
Parfait.
Catégorie groupe de l'année.
Le gagnant est...
Uzeb!
50 000 albums de jazz des années 83, c'est quand même énorme. Là. On voulait faire le tour du monde. C'est ma copine qui avait un T-shirt Uzeb. J'ai mis mes deux mains sur les E. J'ai vu Uzeb, j'ai dit, ben c'est ça le nom du band.
Uzeb, voici un groupe de jazz rock canadien éblouissant.
Des petits Québécois, d'être connus à l'extérieur, c'est fantastique. Mais il n'y a rien comme d'être reconnu chez nous. Merci beaucoup.
C'est la plus importante tournée d'un groupe québécois dans toute l'histoire du show business.
Bon, maintenant, on est rendu à une autre étape.
Tu te souviens-tu sur Centre des Lombards, comment c'est arrivé dans le décor?
Pas tout.
Tu comptes, tout en gagnant le ballon.
Ce riff-là, c'est lui qui l'a fait.
Il y en a un qui m'a piqué ma baguette pendant que je jouais 60 rue des Lombards.
Ça, c'est définitivement la pièce maîtresse du groupe.
C'était vraiment fantastique, mais un peu crève-cœur à la fois.
Alain, il commençait à trouver ça plate.
La façon de travailler des deux gars est complètement différente.
Il comprend pas que les gens adhèrent pas à son monde.
Que c'est vraiment... hyper, il faut tout de suite. Alain, il est plus relax. Donc, moi, je suis encore entre les deux.
C'était pas évident pour mes collègues de me suivre.
Je savais que ce serait le dernier concert.
Uzeb, c'est une partie de l'histoire du Québec. Là.
Moi, je pense qu'ils ont fait beaucoup de bien à la musique québécoise.
Ça a été un laboratoire. On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui sans Uzeb.
Ce qu'on a fait, je pense que je serais content de le refaire demain matin.
Sont tellement sympathiques. Alain Caron, Michel Cusson et Paul Brochu, les membres d'Uzeb qu'on entendait dans cette bande-annonce. Le film qui est à l'affiche depuis une douzaine de jours, il y a une première mondiale le 29 juin. Ça se passait dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. J'imagine que vous y étiez, Philippe.
Ben oui. Super événement. Oui, il y avait 750 personnes. C'était plein.
Wow.
Les gars d'Uzeb, ils ont... ils ont été émotifs après la présentation. Alain et Paul, ils ont pleuré. En tout cas, c'est vraiment super, ouais, super émotif.
Oh, oui. Une réussite. Et ensuite, le film a pris l'affiche le vendredi 3 juillet. Donc, ça fait une douzaine de jours qu'il est à l'affiche. C'est un documentaire que j'ai regardé avec passion. Je peux pas dire que moi, je suis une fan d'Uzeb, là, comme, ben, je pense que vous l'étiez à la base.
Ben oui.
J'imagine qu'il faut l'être pour s'y intéresser et travailler pendant 7 ans à un documentaire sur un groupe.
C'est sûr que ça prend un projet passionnant pour continuer comme ça, là, pendant 7 ans de temps puis de pas lâcher. Puis même encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai le but d'écrire un livre sur le groupe et que j'ai encore une passion, une flamme par rapport
oui,
à ce projet-là.
Qui est toujours bien vivante. Ben oui. Mais pourquoi 7 ans?
Bien, premièrement, je suis tout seul à tout faire. Là. C'était
oui.
ça,
vous êtes un documentariste autodidacte.
Oui, c'est ça.
Et autonome.
Oui, c'est ça. C'est mon troisième documentaire, mais c'est sûr que ça m'a pris quand même beaucoup de temps de le faire parce que je travaille à temps plein aussi à BNQ, là, je suis à côté de la Grande Bibliothèque.
Ah oui. Qu'est-ce que vous faites à BNQ?
Je suis vidéaste là-bas, fait que je suis encore dans le domaine de la vidéo. Mais oui, c'est ça, ça a été long parce que c'est quand même énorme là, comme projet. Là. C'est juste les archives, tout démêler ça, ça m'a pris un an et demi. T'sais, m'organiser pour le montage, ça m'a pris un an et demi. Faire le tournage, j'ai fait 55 entrevues. Je voulais vraiment le faire comme il faut, avoir le plus de témoignages possible. Ça a été vraiment un long processus, mais en même temps, il fallait que ça prenne ce temps-là pour aboutir à ça aussi parce que t'sais, la confiance que j'ai développée avec les gars et tout, ça se fait pas non plus en un an. Là, fait
non,
que,
c'est sûr.
On le voit dans le film, là, les témoignages.
Quand vous les avez approchés, est-ce que vous les connaissiez? Bien, vous les connaissiez parce que vous aviez fait du travail en allant visiter les archives, là, mais comment vous êtes entrés en contact avec les gars du ZEP?
Bien, au départ, je les connaissais pas, puis t'sais, je me disais... Moi, au départ, je voulais faire un film sur le jazz fusion au Québec, mais rapidement, j'ai réalisé que ça usait pas mal le sujet principal de tout ça, fait que j'ai comme vraiment fait le film sur UZEP. Puis au départ, je n'avais pas trop m'aligné par où commencer pour rejoindre ces gars-là. Puis j'ai contacté Luc Boivin, qui était le chef d'orchestre de Beau et Chaud à l'époque. Puis moi, c'est un souvenir d'enfance, Beau et Chaud. J'écoutais ça avec ma mère quand j'étais jeune et tout. Fait que ça vient de là un peu cette passion-là, tu sais. Puis Luc Boivin, il m'a référé à Jean Saint-Jacques, qui est le claviériste du Zeb.
Oui.
Puis Jean, il m'a raconté l'histoire du Zeb. Puis j'ai pris des notes de tout ce qui était des points importants et tout. J'ai contacté
après. C'est parti votre documentaire, d'ailleurs,
oui,
là,
c'est
Jean
ça.
Saint-Jean.
Ben oui. Puis au fil du temps, ben là, j'ai après 3-4 entrevues avec d'autres personnes du milieu de Jazz Fusion, j'ai contacté les gars du Zeb. J'ai dit, gars, je suis en train de faire un projet sur Jazz Fusion, tout ça. Puis j'avais une couple d'entrevues de fait. Fait que ça a donné une crédibilité au projet. Fait que Michel, Paul puis Alain, ils ont dit « OK, on embarque. »
Ah oui, tout de suite, comme ça,
c'est
d'emblée.
Ça. Puis je pense que les gars ont voulu m'aider au début. Je pense ils pensaient pas que ça devenait gros comme ça. Tu sais, moi, je me présente, je suis un gars tout seul, puis je fais, tu sais, peut-être qu'ils ont dit c'est un gars amateur, il va faire un petit projet. Ben, c'est ça, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais, tu sais, les années ont passé, puis ils ont vu que j'étais sérieux. Fait que, tu sais, c'est ça, la confiance s'est développée avec le temps. Les gars m'ont donné toutes leurs archives personnelles à un moment donné.
Ah
puis,
oui, ils ont été généreux. Là, c'est un film complet. Là, on est satisfait. On regarde le film, puis il n'y a rien qui manque. Je trouve que c'est un travail journalistique impeccable.
Merci.
Puis, je ne dis pas ça par flagornerie.
Non,
là,
merci.
J'ai beaucoup apprécié ce documentaire-là. Et le Jazz Fusion, c'est quoi exactement? Comment vous l'expliquez?
Ben le jazz fusion, ça il peut y avoir plein de formes de jazz fusion. C'est sûr que ça vient de Miles Davis au début des années 70, c'est là que ça a commencé. Puis tu sais, ça peut être un mélange de jazz puis de rock, de jazz puis de la musique latine. Ça peut être, dans les années 80, c'était peut-être du jazz avec du pop, comme je disais, on peut expérimenter au milieu des années 80 avec les synthétiseurs, tout ça. Fait que le jazz fusion, ça peut être pas mal n'importe quoi, mais en même temps, il y a quand même une racine commune qui est le jazz en bout de ligne.
Oui. UZEB qui célèbre ses 50 ans, qui n'existe plus là, comme groupe. Là. On parle souvent de leur virtuosité musicale, mais votre documentaire montre aussi l'humain derrière les musiciens. Est-ce que cette démarche-là a été accueillie assez facilement par les musiciens, là, de s'ouvrir un peu plus sur leur relation entre eux, sur eux?
Ça, c'est une affaire que j'étais quand même assez fier d'avoir réussi à souffrir les verres du nez aux gars parce que c'était quand même... C'est même un sujet sensible entre les deux.
Ouais.
Puis, tu sais,
entre les deux.
Ou entre les deux, Michel puis Alain, c'est
ouais.
ça. Puis dans la deuxième entrevue que j'ai faite avec Michel, 3 ans après le début du processus quand même, Michel me connaissait plus. Il a commencé à me parler un peu plus de la relation.
Peu tendu.
Oui, un petit peu tendu, tout ça.
C'est pas la même personnalité, en tout cas.
Non, c'est ça. Puis Alain, de son côté, je voyais qu'il était comme plus fermé à ça. Fait que, tu sais, j'ai pas forcé non plus la chose.
Ouais.
Quand j'ai présenté le film au gars l'année passée, une version presque finale du documentaire pour qu'il approuve le projet... Alain m'a rappelé le lendemain, puis il me dit « Ah, c'est un peu flou, là. » Tu sais, il voyait que c'était peut-être plus du côté de Michel, l'histoire, puis il voulait comme dire sa version aussi des faits. Fait que j'ai dit « OK, go, on y va. » J'étais en plein déménagement, j'étais comme pas pantoute dans l'esprit de faire un
oui.
tournage. Puis pour vrai, Alain, il s'est livré, puis je disais à Michel « Mais Alain, il se livre, tu te livres. » Fait qu'il dit « OK, go. » Fait que les gars se sont ouverts, puis ça a pris 6 ans quand même de confiance pour en arriver là. Là, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Non,
là.
Non, c'est sûr. J'allais dire, vous avez eu la bonne approche, finalement. Mm-hmm. C'était dans le respect, l'écoute et la patience.
J'ai pas forcé rien. Là,
non,
là,
c'est ça. Puis Paul Brochu, lui, était comme entre les deux.
Oui, c'est ça. Paul était entre les deux. Puis ils m'ont dit que quand il y avait une chicane qui commençait, Paul, il allait prendre une bière ou il allait prendre un café. Il laissait s'obstiner un peu. Puis, fait que c'est entre les deux pas mal.
Oui, oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas le groupe ou qui connaissent peu UZEB, comment vous les présentez? Qu'est-ce qui les rendait si exceptionnels ici? Parce que ça a commencé à Drummondville et ils ont eu une carrière à l'international.
Bien, UZEB, c'est ça, c'est un phénomène dans les années 80. T'sais, on parle d'Angine de Poitou aujourd'hui, mais UZEB, ils ont fait ça pendant une dizaine d'années.
Mais c'est donc, j'écoutais du UZEB, je me disais, il y a quelque chose d'Angine de Poitrine dans
UZEB. Bien oui, c'est ça, bien, c'est un groupe instrumental un peu, ça vient un peu de là. Mais puis même Angine de Poitrine, il aurait été influencé par UZEB aussi dans une entrevue, ils ont dit ça.
Apparemment.
Mais oui, UZEB, c'était un phénomène dans les années 80, puis c'est quand même, c'était
Vous n'étiez même pas né, je pense.
Ben, non, je suis né en 89. Fait que quand UZEB était à son ascension finale, je venais de naître ou quelque chose comme ça, mais oui, c'était un phénomène, puis ils ont été connus en France, partout à l'international, puis... C'est quand même spécial pour un groupe de jazz fusion d'avoir ce rayonnement-là.
Oui,
là,
oui. Et de vendre aussi des albums.
Oui, c'est ça. Ben oui. Ah, ils ont vendu 200 000 au Québec. En 89, c'est leur 200 millième album. Là, fait que c'est quand même impressionnant. Là.
À part les groupes du membre, les membres du groupe, dis-je bien, vous rencontrez d'autres personnes d'influence, des intervenants là, pertinents, comme je pense à André Ménard.
Ben oui, mais je voulais vraiment faire le tour de tout. Puis je suis un peu perfectionniste, fait que je voulais avoir...
Ça paraît.
C'est ça, c'est ça. Tu sais, le tournage, j'ai fait seul, fait que j'avais pas d'équipe à traîner avec moi ou de payer du monde pour... Fait que j'ai tout fait seul, fait que si demain matin, André Ménard veut me parler, mais moi, je suis prêt à faire l'entrevue. Fait que j'ai fait beaucoup de démarches j'ai fait beaucoup de contacts dans le milieu, puis t'sais, même l'histoire de où ça vient, le nom UZEB, là, t'sais. Mm-hmm. Fait que j'ai trouvé la personne qui avait trouvé le nom à l'époque sur son calendrier, t'sais. Fait que j'allais vraiment pousser loin pour trouver les petits détails.
Un travail d'archiviste.
Oui, c'est ça. C'est le fun de faire ça, là.
Et on va écouter, c'est Alain Caron qui... présente cette pièce-là comme la pièce maîtresse du groupe. Et c'est 60 rue des Lombards. Et on revient avec vous, Philippe Frenette-Roy. Ouais, c'est une belle longue pièce de 6 minutes et quelques secondes. Et on est de retour avec Philippe Frenette-Roy, le documentariste, le réalisateur du film UZEB en fusion. Donc, cette pièce s'intitule 60 rue des Lombards. Parlez-nous-en un petit peu, là. Ça vient d'où?
Bien, 60 rue des Lombards, c'est pas mal leur toune la plus connue d'UZEB.
Ouais, ouais.
Ça vient d'un petit bar jazz à Paris qui s'appelle Sunside. Puis c'est là qu'UZEB passait beaucoup de temps quand il allait à Paris, il allait tant à ce bar-là, puis ils ont joué beaucoup à ce bar-là aussi, fait qu'ils ont créé une pièce pour à l'honneur de ce bar-là.
Est-ce qu'ils ont créé une pièce intitulée « L'air du temps »
Non, il n'y a pas. Non, ça, mais ça aurait pu. J'avoue,
oui, une super boîte de jazz dont on s'ennuie, qui était dans le Vieux-Montréal.
Ben oui.
Alors, Philippe Frenette-Roy, c'est pas votre premier documentaire. On le disait au début de l'entrevue, vous êtes un documentariste autodidacte. Ça vous tentait pas là, d'aller à l'école?
Ben, j'ai fait un an à l'UQAM, puis je sais pas. J'ai eu une opportunité au Canadien de Montréal à l'époque. Fait, j'ai travaillé là pendant 4 ans. Fait que
j'ai
un peu une
Qu'est-ce
job
que
de rêve.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Je faisais du web, j'écrivais, je faisais de la vidéo.
Toujours dans le milieu du cinéma.
Oui, je fais de la vidéo aussi, c'est ça. Fait que c'est un peu, j'ai touché un peu à tout. Là.
OK. Et donc, ce film-là, c'est votre troisième film. Votre premier documentaire s'intitule « Albert et Alma en 16 temps », qui a remporté un prix au Festival des films du monde de Montréal il y a 10 ans déjà.
Oui, déjà.
Louis, c'est comme une sorte de clin d'œil à Run, 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 là, un film qui nous plonge dans les tribunes téléphoniques sportives. Est-ce que vous êtes un adepte de ça?
Ben oui, c'est ça. Je suis un amateur de sport, fait que c'est un sujet qui m'a passionné. Fait que je me suis lancé là-dedans en 2018.
Pas juste un amateur de jazz fusion.
Non, un peu de tout.
Et comment vous l'avez vendu, votre film, là, pour avoir du financement? Est-ce que vous en avez eu du financement?
Bien, au départ, c'est ça, c'est un projet indépendant. Fait que je suis parti tout seul avec ma caméra. J'avais pas de subvention, rien pour ça. Fait que je dirais le tournage, je l'ai fait à mes frais, pas mal avec mon équipement. Puis après, j'ai réalisé quand même les droits d'auteur, les archives et tout, ça coûtait assez cher. Là. C'est quand même des gros montants. Fait que j'ai déposé au Calque puis au Conseil des arts du Canada mon film. Puis ça a pris 11 tentatives, 5 ans avant d'y arriver. Là. Fait que c'était une grosse...
7 ans pour réaliser le film, 11 tentatives pour avoir de l'argent.
Oui, ça a été quand même un long processus. Puis,
faut y croire, hein?
Ah, vraiment. Ben, moi, j'ai un peu une mentalité de j'ai une vie à vivre, puis gros, on y va à 100% là-dedans, parce que je voulais pas... j'avais déjà mis beaucoup de temps là-dessus, puis je voulais pas abandonner après 3 ans.
Ouais.
Fait que...
Est-ce que vous vous promenez dans les salles de cinéma pour voir qui est là, puis quelles sont les réactions?
Ben, j'ai fait la tournée de tous les cinémas à date. Là, il y a juste Percy que j'ai pas fait, là, ça, c'est un peu loin, là, mais...
Ça viendra peut-être.
Non, peut-être. Puis non, ça, j'ai fait Drummondville justement cette semaine. Puis là, le cinéma Beaubien, il présente encore le film. Quartier Latin, c'est fini pour la diffusion.
Oui, ça va vite. Hein?
Oui, ça va vite. C'est 2-3 semaines. Fait que au Beaubien, quand même, il est encore là. Il y a 2 représentations par jour. Puis il est à Québec, au Clap de Sainte-Foy. Puis à Trois-Rivières aussi, il est encore
disponible. Est-ce que vous avez participé à des discussions après ou avant le film?
Ouais.
Après le film, habituellement?
J'étais allé à Québec, puis j'étais allé au Beaubien aussi faire une présentation spéciale. Il y avait une soixantaine de personnes. C'est vraiment le fun.
Et pourquoi faudrait le voir sur grand écran?
Bien, le son, c'est ça. On a fait un beau travail de mix sonore. Puis juste pour ça, ça vaut la peine d'aller au cinéma. C'était vraiment immergé dans l'atmosphère Uzeb. Puis je recommande vraiment aux gens d'aller le voir au cinéma. Là.
Est-ce que vous l'avez fait, ce film-là, pour les admirateurs d'Uzeb ou pour faire connaître ce groupe qu'il faut connaître?
Oui, pour les admirateurs. Puis aussi pour que les gens en général voient le film. Parce que c'est pas non plus niché de genre, il faut vraiment tout connaître, toutes les pièces d'Uzeb. C'est vraiment, c'est fait pour rejoindre tout le monde. Puis il y a du monde qui ne connaissait pas le groupe et qui ont vraiment aimé le film. Là. J'ai super bons commentaires à date. Là. C'est vraiment super réactions. Là.
Est-ce que vous pensez que ce film-là va faire la tournée, mais peut-être, en tout cas, va voyager à travers le monde, à travers des festivals?
Ben, en tout cas, en France, il y a beaucoup de demandes. Là. À tous les jours, là, les Français me demandent quand est-ce que ça sort en France. Fait que oui, avec le distributeur Entraque Film et Opal, les films Opal, on veut le distribuer en France. Fait que dans les prochains mois, je ne sais pas encore, mais quand, mais... C'est sûr, il y a des plans là, en Europe, là, c'est certain. Là.
La réaction est bonne. Puis on entend aussi les gars d'Uzeb en entrevue, surtout Michel Cusson.
Oui.
Ça fait du bien de les entendre. Michel Cusson, on continue sa carrière. Alain Caron aussi, Paul Brochu, je ne sais pas.
Il est en direct de l'univers, c'est lui le batteur d'En direct de l'univers.
Ah, oui.
Fait que, tous les samedis, on le voit à la télé.
Okay.
Il est encore très actif.
Je suis une fan d'En direct de l'univers, je ne l'ai pas reconnu, on dirait. Bon, bien, merci. Merci, Philippe Frenette-Roy. Et surtout, bravo pour Uzeb en fusion. C'est vraiment un excellent documentaire qu'il faut voir. Et courez-y dans les salles de cinéma, parce que c'est là qu'on...
Ça passe vite.
Oui, et c'est là qu'on l'apprécie encore plus.
Oui,
oui, ça passe vite aussi.
Oui, c'est ça.
Bon,
merci beaucoup.
Contente de vous avoir connu, puis à une prochaine.
Merci
bon succès
beaucoup.
Avec ce film.
Merci.
Alors, c'était la fin de la pièce 60 rue des Lombards.
Ah, wow! On a écouté le début, puis on a écouté la fin.
Tout ça,
on n'a pas fait de montage.
Non.
Non, rien de ça. Alors, ben c'est les vacances de la construction. Il y a plein de choses à voir, à faire. Je ne sais pas ce que sont vos plans, chers auditeurs et auditrices, si vous faites partie des chanceux, des vacanciers. Mais il y a plusieurs suggestions. Bon, une des suggestions, c'est d'aller voir le documentaire Uzeb en fusion. Et dans la presse, on nous donne quelques idées. Gilles Valiquette au Jardin botanique, là, c'est tentant, ça. C'est le retour de la série Les Arts qui s'invite au Jardin, où des artistes de renom viennent se produire pendant une heure tous les dimanches dans le cadre très enchanteur du Jardin botanique. Et c'est Gilles Valiquette qui est à l'affiche cette semaine. Le reste de la programmation est à la hauteur au cours des semaines suivantes. C'est un texte de José Lapointe dans la presse. Alors, il y aura Pierre Lapointe, Louane Larobina et Anora, les Sœurs Boulay avec Elliott Maginot, Florence K, Mon Doux Seigneur. Et un volet jeunesse a été ajouté cette année qui s'intitule Les mini-samedis, en vedette samedi à 11h30. Là, ce samedi, donc après-demain, Claude et Carlo des Petites Tounes. Et le 25 juillet, ce sera au tour de la rockeuse Hatchoum. C'est gratuit avec l'achat d'une entrée ordinaire au Jardin botanique. Expo Rail, en fait, c'est le plus grand musée ferroviaire au Canada, Expo Rail. Et Expo Rail convie les jeunes et les moins jeunes à un week-end de festivités pour souligner le 190e anniversaire de la naissance du transport ferroviaire au pays. Le musée célébrera l'arrivée d'une réplique de Dorchester, la première locomotive à vapeur du Canada, inaugurée en 1836. Au cours de l'événement Expo Rail, en fait, les visiteurs pourront également assister à des prestations de guides interprètes costumés, participer à des ateliers de bricolage et faire des balades en train ou en tramway. Également, l'espace muséal Alfred Pellan, la salle muséale de Laval, s'est transformée en jardin dans lequel le public peut se ressourcer. L'exposition « Tout en poésie, les semences de nos lendemains » de l'artiste multidisciplinaire d'origine kurde, il s'appelle Xese Kadja Baker, est l'occasion de se demander pourquoi certaines plantes sont considérées comme de mauvaises herbes. Il s'agit d'une métaphore des relations humaines. Les œuvres nous font prendre conscience de ce qui peut susciter au nom la bienveillance ou l'exclusion. Plusieurs réalisations sont confectionnées à la main à partir de végétaux cueillis et séchés. Installations textiles, vidéos, sculptures et créations participatives, ainsi que deux œuvres d'art public temporaires hors les murs sont au programme. La pièce passage par Gilles Valiquette qui sera au Jardin botanique dimanche. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci à vous et je vous souhaite un beau week-end. Bonnes vacances de la construction et on se retrouve mardi. J'y serai. Mathieu aussi. À bientôt. Denis Martin, lundi.